connaissez pas de geste, allez que moi. Il y a eu un petit changement de calendrier. Je ne sais plus qui d'ailleurs a initié le mouvement, mais peu importe. C'est toujours un plaisir de partager la parole de Dieu et de prolonger ce qui a été. Oh, ça, il y a de l'écho là. De prolonger ce qui a été déjà partagé ce matin. Ça siffle un peu. Ça va s'arranger. C'est une nouvelle table de mixage, alors. En plein apprentissage de manipuler tous ces boutons. Ce matin, je vais vous proposer une petite promenade dans les évangiles, encore une fois, parce que, effectivement, on a rappelé, c'est le premier dimanche de l'Avent, ça veut dire que c'est un moment où on se concentre sur le fait que, oui, comme Jean l'a rappelé, effectivement, quelqu'un est venu il y a 2000 et quelques années, on ne sait pas trop, et il a marqué l'histoire de l'humanité, avant et après. C'est pas la même chose. Il y a eu un changement. Et ce changement, pour nous, il est important. Et bien sûr, c'est tout au long de l'année qu'on s'en rappelle, mais la période de l'Avent est peut-être particulièrement propice à se laisser porter par des textes et à regarder comment, aujourd'hui, il nous parle pas seulement pour raconter une histoire. On raconte des histoires, voilà, il y a des tas d'histoires intéressantes. Mais là, il s'agit de se dire, cette histoire-là, qu'est-ce qu'elle peut bien faire pour moi? En quoi ça me concerne? Qui s'est passé dans une terre lointaine, qui malheureusement vit des heures difficiles, et qui est bien loin de chez nous, avec une culture qui n'était pas la nôtre. Qu'est-ce que ça peut bien faire aujourd'hui, en 2025, bientôt 26, pour nous qui habitons ici à Vendeuvre? Et il me plaît de rappeler juste ce verset de l'Épître qui commence, l'Épître aux Hébreux, et qui nous dit « Après avoir autrefois, à plusieurs reprises, de plusieurs manières, parlé à nos pères par les prophètes, Dieu nous a parlé par le Fils en ces jours qui sont les derniers. » Et il continue à nous parler par celui qui, son Fils, a marché sur la terre. Alors, je vais vous parler aujourd'hui d'une famille. C'est une famille dont il nous est question, il nous est parlé dans les évangiles. Une famille peu ordinaire, à qui il arrive des choses, des événements fâcheux ou hors du commun, on va dire. Alors, on ne connaît pas leurs parents, on ne sait pas trop d'où ils viennent. Les parents ne sont pas mentionnés. On sait juste qu'ils habitent dans un village qui est à l'est de Jérusalem. Vous savez, à Jérusalem, il y a le mont des Oliviers, puis il y a d'autres villages derrière en allant vers le Jourdain. Et dans cette famille, il y a trois personnes. Il y a deux femmes et un homme. Vous avez peut-être déjà deviné de qui il s'agit, parce que bon, il y a des lecteurs assidus de la ville, donc c'est pas un grand scoop. On ne sait pas dans quel ordre se place cette fratrie. On ne sait pas, certains indices semblent dire qu'une des deux sœurs, c'est un peu le chef de famille. Donc c'est peut-être l'aînée. Voilà, peut-être qu'elle a pris le relais de la maison familiale parce que, je ne sais pas, la maman est morte ou enfin, des choses qui arrivent à votre histoire. Après, on peut broder, faire ce qu'on veut. Le frère, lui, il est malade. On sait qu'il est malade, on ne sait pas de quelle maladie il souffre. Et puis, il y a une sœur, moi je l'imagine dans ma tête, je dis c'est une jeune sœur. Je la vois plus jeune que les autres, plus fragile peut-être, plus sensible aussi, peut-être marquée par une vie qui n'a pas toujours été simple. Bien sûr, je veux parler de Marthe, Marie et Lazare, Xavier. Naturellement deviné. Ils habitent à Béthanie. Donc Béthanie, c'est un peu à l'est de Jérusalem. Et peut-être que c'est chez eux que Jésus allait quand il avait besoin de se retirer parce que ça commençait à chauffer. On a un épisode dans l'évangile de Matthieu, au chapitre 21, où il y a une grosse bagarre dans le temple, où Jésus chasse les marchands du temple. Et donc, bon, ça fait un peu de bruit. Et je dirais même que sa sécurité peut être mise en danger, ou en tout cas, ça chauffe un peu, on va dire. Et donc, qu'on nous dit, c'est qu'il se retira à Béthanie pour y passer la nuit. Est-ce qu'il était chez Marthe, Marie, Lazare? On ne sait pas de façon formelle. Ce que l'on sait, par contre, et c'est ce qu'on trouve dans l'évangile de Jean, au chapitre 11, le verset 5, nous dit « Jésus aimait Marthe et sa sœur et Lazare ». Jésus aimait cette famille. C'était une famille où chaque membre comptait pour Jésus. La famille dans son ensemble, et chaque membre individuellement. Et nous pouvons nous appliquer cela à nous. Est-ce que nous sommes conscients que Jésus nous aime, nous? Alors chacun individuellement, nous en tant que les familles que nous représentons, nous en tant que famille du Christ ici assemblée à Vendeuvre, et plus généralement, que Jésus nous aime. Et plus largement, est-ce que Jésus aime faire halte chez nous? Est-ce qu'il aime bien venir chez nous? Là, quand dans le Matthieu 21, on peut imaginer, bon, il est 7 heures du soir, et il se sauve parce que ça commence à chauffer, donc il arrive, il n'a pas prévenu, etc. Il arrive. Est-ce que nous sommes prêts à accueillir Jésus, même, j'allais dire, à l'improviste? Parce que tout d'un coup, il frappe à notre cœur et nous dit quelque chose, peut-être ce matin, qui va remuer une pensée, qui va faire écho à quelque chose que nous vivons. Est-ce que nous sommes prêts à ce que Jésus fasse halte chez nous, chez moi, à l'accueillir en tout temps de ma vie? Aux Corinthiens, cette église qu'il aimait tant, l'apôtre Paul dit au chapitre 3, verset 16, « Ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu ?» Et là, il parle à l'église tout ensemble. Vous êtes le temple de Dieu, et c'est comme ça que nous devons accueillir Jésus. Et puis un peu plus loin, c'est au chapitre 6, il dit « Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit ?» Et là, il parle à l'individu, à chacun d'entre nous. Et c'est nous, chacun d'entre nous, qui devons être prêts à accueillir Jésus dans nos vies. Est-ce que nous y sommes prêts? Les sœurs envoyèrent dire à Jésus, qui n'est pas sur place, ils font vraiment des essais de sonos là-bas, « Seigneur, voici celui que tu aimes est malade. » Or Jésus, c'est le verset que j'ai lu, aimait Marthe et sa sœur et Lazare. Et donc il se passe un certain temps, il s'agit de retourner en Judée, ses disciples déconseillent à Jésus de le faire, en disant « Attends, on va chercher à atteindre ta vie, etc. » Et Jésus dit, mais oui, mais mon ami Lazare est endormi, il faut que j'aille le réveiller. Alors ils ne comprennent pas bien, ils disent, mais s'il est endormi, laisse faire, il va se réveiller tout seul. Enfin voilà, donc on a quelques versets là où on sent bien que... Et Jésus finalement dit non, on y va. Et à son arrivée, au verset 17, Jésus trouva que Lazare était déjà depuis 4 jours dans le tombeau. Béthanie était près de Jérusalem, à 3 kilomètres environ. Beaucoup de Juifs étaient venus vers Marthe et Marie pour les consoler au sujet de leur frère. Lorsque Marthe apprit que Jésus arrivait, elle alla à sa rencontre, tandis que Marie restait assise à la maison. Marthe dit à Jésus, « Seigneur, si tu avais été ici, mon frère ne serait pas mort. Mais maintenant même, je sais que tout ce que tu demanderas à Dieu, Dieu te le donnera. » Jésus lui dit, « Ton frère ressuscitera. » « Je sais, répondit Marthe, qu'il ressuscitera à la résurrection, au dernier jour. » Jésus lui dit, « Moi, je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra, quand même il serait mort. Et quiconque vit et croit en moi ne mourra jamais. Crois-tu cela ? » Et elle lui dit, « Oui, Seigneur, je crois que tu es le Christ, le Fils de Dieu, celui qui vient dans le monde. » Après avoir dit cela, Marthe s'en alla, appela Marie et lui dit, « Le Maître est ici et il t'appelle. » Et Marie se lève et elle va à la rencontre de Jésus. Et un peu plus loin, Jésus et Marie se rencontrent et ils vont vers le tombeau. Marie pleure. Et Jésus pleura. Il n'y a pas beaucoup de passages dans l'Évangile où on nous a dit que Jésus a pleuré. Mais il aimait cette famille. Et voyant cette souffrance et cette douleur, et nos souffrances, nos douleurs, ne laissent pas Jésus indifférent. Et d'une certaine manière, quand nous souffrons, quelle que soit la souffrance qui nous atteint, soyons conscients que Jésus pleure avec nous et qu'il veut nous consoler, qu'il veut accompagner cette souffrance pour nous en faire sortir. Quand Jésus vit qu'elle pleurait, il frémit en son esprit. Et Jésus pleura. Les Juifs disaient, voyez comme il l'aimait. Mais lui qui a ouvert les yeux des aveugles, ne pouvait-il pas faire aussi que cet homme ne meure pas? Et après, Jésus va jusqu'au tombeau, il fait ouvrir rouler la pierre qui fermait le caveau. Marthe s'interpose, Seigneur, ça doit déjà sentir mauvais, ça fait 4 jours qu'il est là. Il fait chaud dans ces pays en plus. Hein. Et Jésus lui dit, ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Quelques versets pris dans ce récit, vous le lirez en entier, c'est dans Jean au chapitre 11. Et ça nous en dit un peu plus sur les caractères de Marthe et Marie. Alors, voilà, je vous ai dit tout à l'heure que Marthe est sans doute, dans ma tête en tout cas, le chef de famille. Elle a de grandes qualités, y compris d'ailleurs intellectuelles et j'allais dire théologiques. Son échange avec Jésus, là, pour moi, c'est un des passages les plus denses théologiquement de l'évangile de Jean, avec peut-être la rencontre de Jésus et Nicodème et le chapitre Jean 6 sur le pain de vie. C'est extrêmement dense ce qui se vit là, ce qui se dit là, sur la résurrection des morts, sur le fait que, oui Seigneur, je crois que tu es le Christ, le Fils de Dieu, celui qui vient dans le monde. Voilà à quoi aboutit cet échange. Et cet échange qui est, ça on le comprend bien, un mélange de foi et d'incrédulité, de volonté d'avancer, de croire, mais c'est tellement compliqué, c'est tellement difficile que la seule chose qu'on peut dire, je crois que tu es le Fils de Dieu, en gros ça veut dire, éclaire-moi, parce que jusque-là j'arrivais, mais après ça me dépasse, en quelque sorte. Et puis si tu avais été là, Marthe, Marie, les gens qui sont venus là, tout le monde dit ça. Si tu avais été là, Seigneur, ça ne se serait pas passé. Si tu avais été là, il ne serait pas mort. Si tu avais été là, Seigneur, il ne m'arriverait pas telle tuile, tel problème, tel souci, telle inquiétude. Qu'est-ce que j'ai fait au bon Dieu, etc. Vous savez, on entend, et peut-être on dit nous-mêmes, ce genre de phrase d'une manière ou d'une autre. Nous avons tendance parfois à penser que croire en Jésus, c'est prendre une assurance tout risque, qui nous couvre de tout, en condition de payer quand même. Et c'est vrai que Paul, dans l'Épître aux Romains, dit « Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous ?» Alors que, pourquoi est-ce qu'il nous arrive encore des pépins, des choses difficiles? Ce que Jésus dit à Marthe, là, « Si tu marches avec moi, ne t'ai-je pas dit que tu verras la gloire de Dieu ? Je t'ai pas dit que tu seras protégé de tous côtés, emballé dans un truc, un cocon douillet. Je t'ai dit que si tu crois en moi, si tu me suis, tu verras la gloire de Dieu. Tu la verras même au travers de moments peut-être difficiles. » Et ça, c'est quelque chose que nous avons besoin d'apprendre. Et peut-être que dans nos vies ordinaires, dans nos vies de tous les jours, est-ce que nous savons reconnaître dans ce qui nous arrive, de bon comme de difficile, que Dieu est présent avec nous, qu'il est vivant, qu'il est à nos côtés, qu'il marche avec nous. Quand il nous arrive quelque chose, on réussit un examen. Ça ne veut pas dire que c'est Dieu qui a passé l'examen, qui a tenu le stylo et qui a écrit sur le papier, machin. C'est pas lui non plus qui a corrigé la copie et qui fait que j'ai la note qu'il faut. Mais au travers de cet événement, qui somme toute est banal, est-ce que nous, chrétiens, nous disons merci Seigneur parce que par ça, tu me permets d'avancer, de continuer à aller vers toi? Non pas, Seigneur, tu as fait un miracle, il ne faut pas exagérer quand même. Si je n'ai pas travaillé et que je n'ai pas mon examen, j'en veux à personne, c'est ma faute. Mais est-ce que nous reconnaissons dans des choses comme ça, tout simples de la vie, que le Seigneur est présent avec nous, qu'il nous accompagne? Certains psaumes disent ça avec force. Il y en a des très longs, mais j'en ai choisi un très court pour ne pas vous lasser, qui a 5-6 versets. Le psaume 13. Jusqu'à quand, Éternel, m'oublieras-tu sans cesse? Jusqu'à quand me cacheras-tu ta face? Jusqu'à quand aurai-je des soucis dans mon âme et chaque jour du chagrin dans le cœur? Jusqu'à quand mon ennemi s'élèvera contre moi? Regarde, réponds-moi, Éternel, mon Dieu, éclaire mes yeux, afin que je ne m'endorme pas dans la mort, afin que mon ennemi ne dise pas « J'ai vaincu » et que mes adversaires ne soient pas dans l'allégresse si je chancelle. Mais moi, j'ai confiance en ta bonté. Mon cœur est dans l'allégresse à cause de ton salut. Je chanterai à l'Éternel, car il m'a fait du bien. » Il y avait un vieux chant qui disait à moi, j'ai confiance en ta bonté. Peut-être certains, les plus jeunes, s'en rappellent. Mais c'est sur ce verset-là. Et donc, on a cette séquence, jusqu'à quand? Et oui, des fois la vie est difficile, jusqu'à quand ça va durer ces problèmes que j'ai? Et puis on a l'impression qu'il n'y a pas de réponse. Jean nous a dit pendant 400 ans, il n'y avait pas beaucoup de réponses des prophètes pour expliquer que la suite des événements. Et on attendait, jusqu'à quand ça va durer? Réponds-moi, Seigneur. Et il y a un certain nombre de personnes, et j'espère nous et vous, chacun d'entre nous ici, peut continuer à dire « Oui, mais j'ai confiance en ta bonté. Je sais qu'à la fin, tu vas me répondre et à la fin, je vais comprendre. Parce que tu es le Christ, le Fils de Dieu, celui qui vient dans le monde. Même si le reste, je n'ai pas tout compris, ça au moins, je veux m'accrocher à cette vérité. » Ça, c'était Marthe. Et ses doutes, ses cris, sa douleur, ça. Voilà, j'ai déjà tout pris sur moi et en plus il se passe ce truc-là. Il y a Marie, alors Marie c'est la sensible, elle est tellement sensible et qu'elle est capable de faire des folies, si j'ose dire, du grand n'importe quoi. C'est ce que nous dit le chapitre 12 dans l'évangile de Jean. Marc, là, 6 jours avant la Pâque, Jésus revient à Béthanie et il y a Lazare qui est donc ressuscité des morts. On fait un repas et Marie prit une livre de parfum de nard pur de grand prix et en répandit sur les pieds de Jésus et lui suya les pieds avec ses cheveux. La maison fut remplie de l'odeur du parfum. Alors évidemment, ça critique un petit peu. On aurait pu vendre ce parfum et le donner aux pauvres, ça aurait été quand même bien plus efficace, bien plus utile. Et Jésus dit, laisse, Laissez-la garder ce parfum pour le jour de ma sépulture. Elle m'a honoré en faisant cela. » Matthieu, Marc, Luc situent cette scène ou quelque chose d'équivalent chez Simon le lépreux, un pharisien aussi de Béthanie. À partir de là, faut imaginer, est-ce que Simon et Lazare, c'est la même personne? Parfois les gens ont deux prénoms. Est-ce que Simon, il y a un rapport avec cette famille-là? On ne sait pas exactement. Toujours est-il, ce qu'on sait, c'est que c'est Marie, la sœur de Marthe et de Lazare, qui est là à l'œuvre. Et alors, elle fait un truc déraisonnable. 300 deniers. On aurait pu vendre ce parfum 300 deniers. Alors, le denier, ça ne veut rien dire, mais ça, un denier, c'était apparemment ce que j'ai lu, le salaire d'un journalier d'un ouvrier. Donc 300 deniers, ça veut dire un salaire annuel, quoi. En gros, il y en a pour 15-20 000 euros. Allez, c'est un chiffre qui ne veut rien dire, mais une somme. D'abord, on peut se demander où est-ce qu'elle avait trouvé ça. Enfin, voilà, à partir de là, on peut poser des tas de questions qui n'ont pas d'intérêt. Mais ce qu'on sait, c'est que c'est juste déraisonnable. Et pourquoi est-ce qu'elle a fait ça? C'est parce que l'amour de Jésus pour cette famille était aussi déraisonnable. Dans la relation que Dieu veut avoir avec nous, tout n'est pas objet de raison, parce que ça dépasse notre entendement. Et Jésus ne condamne pas ce geste. Et pourtant, il y a bien des fois où sa vie lui-même a montré qu'il était sobre, et il fallait faire attention. Enfin voilà, on n'était pas dans l'exubérance, il ne se baladait pas avec des grands vêtements, des belles bagnoles et des trucs comme ça. Il était plutôt humble. Mais là, il y a cette explosion de reconnaissance de la part de Marie. Et contrairement à des gens autour, alors bon, l'évangile de Jean en profite pour dire que c'était Judas parce qu'il tenait la bourse, que c'était un voleur, mais peu importe. C'est certainement pas le seul qui a été choqué par ce qui s'est passé. Parfois aussi, il arrive dans nos vies des événements qui sont étonnants. Est-ce qu'on est capable de se laisser emporter par ça? Est-ce qu'on est capable de se laisser porter par le souffle de l'Esprit qui va au-delà de ce que dans notre tête, raisonnablement, on a appris depuis qu'on est tout petit et qu'on met en œuvre avec fidélité et de façon régulière? Ou est-ce que simplement on dit « Oh, mais c'est de la folie, c'est pas comme ça qu'il faut faire, il vaut mieux s'occuper des pauvres comme ça a été dit autour de Jésus ?» Il y a un texte de l'apôtre Paul dans la deuxième épître aux Corinthiens. Grâce soit rendue, c'est dans 2 Corinthiens chapitre 2 verset 14. « Grâce soit rendue à Dieu qui nous fait toujours triompher en Christ et qui par nous répand en tout lieu l'odeur de sa connaissance. » Nous sommes en effet pour Dieu le parfum de Christ parmi ceux qui sont sauvés et parmi ceux qui périssent. Nous sommes le parfum de Christ. Est-ce que nous sommes le parfum de Christ? Là, Marie, elle a pris un flacon, etc. Elle l'a répandu. Et elle est devenue le parfum de Christ. Est-ce que dans nos vies, nous sommes aussi parfois étonnants, de façon à montrer aux gens avec lesquels on vit ou dont on partage quelques instants d'existence, à montrer que le Christ... C'est plus qu'une personne qui est venue sur la terre, qui a vécu 30 et quelques années, puis qui est mort dans des conditions tragiques. Mais c'est vraiment un événement qui a bouleversé toute l'humanité et qui bouleverse notre vie encore. Marie, elle était sensible, peut-être trop sensible, vont dire certains, mais elle a surtout exprimé qu'elle voulait être le parfum de Christ et montrer que c'était la seule, le vrai centre de son existence. Puis il y a Lazare, donc Lazare il est mentionné seulement dans l'évangile de Jean, ailleurs il n'existe pas. Bon, il semble qu'il soit bel et bien revenu à la vie, puisque le chapitre d'après il est à table et il mange et on lui sert à manger, donc il faut croire que ça a fonctionné, si j'ose dire. Il est même l'objet de la curiosité des voisins, si vous lisez, il y a des gens qui viennent non seulement pour voir Jésus, mais aussi pour voir Lazare qui a été ressuscité des morts, quelle tête il avait, quoi. D'ailleurs ça nous intéresserait bien d'avoir une photo, bon. Il y a quelques années, il y avait un livre qui avait glosé un peu sur ça, sur la suite de la vie de Lazare. Bon, c'était l'imaginaire, bien sûr. Ce qu'on voit par contre, c'est que ça dérange beaucoup les gens et que les prêtres de Jérusalem, non seulement ils ont décidé de mettre à mort Jésus, mais ils ont décidé aussi de mettre à mort Lazare, parce que c'est quand même, il devient un témoin gênant. Parce qu'il y a de plus en plus de gens qui non seulement croient en Jésus, mais devant l'évidence de la résurrection de Lazare, ils sont attirés et ils vont aller vers ça. Donc peut-être c'est comme ça que Lazare a terminé malheureusement. Et je voudrais maintenant qu'on lise un autre passage où il nous est question aussi de cette famille. Comme ça, vous aurez eu un survol dans les différents évangiles de ce qu'on sait sur cette famille de trois personnes. Alors, accrochez-vous, ceux qui sont sensibles, vous allez voir.
Jésus entra dans un village, donc c'est Béthanie, et une femme du nom de Marthe le reçut dans sa maison. Elle avait une sœur appelée Marie qui s'assit au pied du Seigneur et qui écoutait sa parole. Marthe était absorbée par les nombreux soucis du service. Elle survint et dit « Seigneur, tu ne te mets pas en peine de ce que ma sœur me laisse seule pour servir. Dis-lui donc de m'aider. » Le Seigneur lui répondit « Marthe, Marthe, tu t'inquiètes et tu t'agites pour beaucoup de choses. Une seule chose est nécessaire. » Marie a choisi la bonne part qui ne lui sera pas ôtée. Le dernier texte qui parle de cette famille, et qu'est-ce qu'on n'a pas entendu sur ce texte? Et quel commentaire à notre époque, au XXIe siècle, ça peut éveiller sur le côté genré, sexiste, etc., répartition des rôles qui sont de notre époque, etc., etc. Voilà. Les autres évangélistes n'en parlent pas, mais ce qu'on voit, c'est que bon, Marthe, c'est pour ça que tous ces différents indices me laissent à penser que c'est un peu elle, le maître de maison. C'est elle qui organise tout ça, et donc elle est au fourneau, elle est à table, elle fait ce qu'il faut pour que ce repas se passe bien. Et heureusement qu'elle est là. Et certainement que Jésus a remercié, et ses disciples aussi, remercié pour ce bon repas. Il ne faut pas non plus inverser tout ça. Mais Marie, elle est assise au pied du... Alors, est-ce qu'elle est fatiguée? Est-ce qu'elle est fragile? On ne sait pas pourquoi elle est là. Parce que normalement, dans l'éducation, en particulier de cette époque, certaines diraient encore aujourd'hui, c'est comme ça, mais je close ce chapitre-là, nous l'attaquerons un autre jour, si vous voulez, dans un autre lieu. Mais elle aurait dû être avec sa sœur, peut-être faire des choses moins lourdes, moins difficiles, moins fatigantes, mais peut-être, mais quand même participer. Or, elle est assise au pied de Jésus. Comme si Marthe... Maintenant, on va dézoomer un peu sur cette histoire et essayer de voir ce qu'il nous raconte pour nous aujourd'hui. Marthe représente en quelque sorte peut-être la sphère domestique, la vie concrète, les obligations que nous avons. Et nous en avons tous. On a un travail, demain matin, la plupart d'entre nous vont se lever, moi je suis en retraite, mais la plupart d'entre nous vont se lever pour aller au travail. C'est une obligation. On a une famille, il faut s'en occuper, il faut faire en sorte que les choses se passent normalement. On a des engagements. Et on a peut-être pris des engagements demain, d'autres jours, pour faire des choses. Toutes ces activités, elles sont certainement utiles, sans aucun doute. Et donc, pour Marthe, il y a du monde à table, et certainement, elle a fait tout ce qu'il fallait pour que ça se passe bien. Mais ce que cet épisode nous rappelle, c'est qu'est-ce qui prime vraiment dans ma vie? Marie, est-ce que c'est la sphère spirituelle? C'est peut-être un peu comme ça qu'on la voit souvent. Celle qui, pour elle, l'essentiel, c'est d'être au pied de Jésus. Est-ce qu'on peut dire que l'attitude de Marie et de Marthe est inutile, ou que celle de Marie est inutile? Sans doute pas. Ce que Jésus semble dire, c'est l'utile et le nécessaire dans notre vie, dans tous les instants de notre vie. Comment choisir? Souvent, habituellement, on pense que le nécessaire, c'est le matériel, le manger, le concret, voilà ce qu'il faut faire pour que les choses avancent et que tout le monde soit bien dans la maison, etc., etc. Et que la spiritualité, ça relève peut-être de l'utile. Bon, c'est utile, mais bon, si on n'a pas le temps parce qu'il faut faire la vaisselle, on fait la vaisselle, quoi. D'accord, on se concentre. Et Jésus, comme souvent, inverse peut-être la proposition en disant que, voilà, préparer le repas, tenir sa maison, c'est certainement utile. Il a bien fallu manger à ce moment-là. Mais la seule chose vraiment nécessaire, c'était de savoir écouter ce que disait le maître. Écouter, non pas juste pour être feignante et dans un coin pendant que les autres travaillaient. Écouter pour se nourrir de sa parole. Écouter pour donner du sens à ce que l'on fait. Et une fois qu'on a pris le temps de l'écoute de ce que Jésus et sa parole nous disent sur nos priorités, sur notre vie, alors le reste prend naturellement toute sa place. Et à chacun de nous de voir dans nos vies, dans la manière dont nous gérons nos priorités. Ce n'est pas toujours linéaire, il y a des moments plus ceci ou des moments moins cela. Voilà, il faut être aussi réaliste. Mais où plaçons-nous l'utile et le nécessaire? Vous savez, dans l'Évangile, c'est au chapitre 18 de l'Évangile de Luc, Jésus rencontre un jeune homme. On nous a dit qu'il c'était le jeune homme, on l'appelle le jeune homme riche. Et Seigneur, que faut-il faire pour avoir la vie éternelle? Et Jésus lui dit, ben voilà, il décline les textes de loi. Et le jeune homme dit, mais j'ai fait tout ce qui était nécessaire. J'ai respecté tout ça à la lettre depuis mon plus jeune âge. Tu as fait tout ce qui était nécessaire. Et Jésus lui répond, non, tout ça tu as fait, c'était utile. Mais une seule chose est nécessaire. Il te manque quelque chose. Va avant tout ce que tu as, donne-le aux pauvres, et puis après, suis-moi. Jésus a inversé cette priorité. Il te manque quelque chose. Un peu comme ici, à Marie. Marie a choisi la bonne part qui ne lui sera pas enlevée. À cet instant précis, puisque Jésus était là, l'essentiel était d'abord de se nourrir de sa parole, et puis après de penser au reste. Le jeune homme riche, l'essentiel, c'était d'abord de montrer qu'il n'était pas attaché à ses biens matériels, de pouvoir s'en défaire, avant de mettre en avant le fait qu'il connaissait tous les textes de loi et qu'il était capable de vivre une vie conforme à ce qu'on attendait de lui. Mais alors, est-ce que ça veut dire que nos actions, nos engagements, notre travail social, etc., tout ça, c'est inutile? C'est de peu d'importance? Ou est-ce que ça veut dire que nous devrions vivre une vie de contemplation permanente, d'être en permanence dans un dimanche matin qui ne finit jamais? Évidemment, je ne pense pas que ce soit ça. D'ailleurs, ce n'est pas notre vie, et ça serait ridicule de penser. Certains le choisissent. Certains choisissent la vie ascétique, certains choisissent une vie retirée. Voilà, c'est un choix, mais c'est en aucun cas le seul choix qui soit offert. L'utile et le nécessaire. Et ce qui est juste intéressant pour terminer, c'est qu'avant ce récit qu'on vient de lire dans l'évangile de Luc, juste avant ça, il y a une parabole, la parabole du bon samaritain. Et j'aime bien parce qu'en quelque sorte, ces deux textes viennent un peu en tension l'un avec l'autre. Vous connaissez cette histoire, hein ? Cet inconnu qui se retrouve roué de coups au bord de la route, et il y a des tas de gens bien qui passent et qui ne s'en occupent pas, et puis il y a finalement un étranger qui lui s'arrête et qui va faire tout ce qui est nécessaire pour l'aider. Comme si cette parabole ne donnait comme priorité absolue le souci de l'autre, de tout autre. D'ailleurs, cet homme qui est au bord de la route, on ne connaît pas son nom. Donc c'est nous, en quelque sorte. C'est n'importe quel homme qui est là, frappé, et qui est malade, qui a besoin d'aide, qui a besoin d'amour, qui a besoin de pardon. C'est le prochain, au sens le plus large. Et donc, ces deux histoires entrent comme en tension. Si on ne lit que la parabole du bon samaritain, on pourrait entendre que la foi n'existe que si elle se manifeste dans des œuvres sociales, dans du travail pour aider les autres, etc. Et qu'au-delà de cela, ce n'est pas une vraie foi. Et puis, si on lit que l'histoire de Marthe et de Marie, on pourrait dire, mais non, l'essentiel, la seule chose qui compte, c'est d'être dans l'écoute passive de ce que dit Jésus. C'est toujours intéressant de lire, c'est pour ça qu'il faut lire tout l'Évangile, toute la Bible, en long, en large et en travers, pour faire ces liens qui sont, qu'on peut exploiter ou pas, comme je le fais ce matin, mais qui nous disent que l'écoute débouche sur l'action, l'action trouve sa source dans la méditation. Et en conclusion, c'est bien l'histoire de notre vie, l'histoire de cette famille. Marthe, Marie, Lazare, ils ont vécu des moments extraordinaires. C'est un peu caricatural, c'est un peu théâtral peut-être la façon dont je l'ai raconté, mais c'était une vraie famille. Et on nous a rappelé tout à l'heure que Jésus est vraiment venu, il a vraiment vécu sur cette terre, il a vraiment apporté quelque chose, et il continue à apporter quelque chose dans nos vies aujourd'hui. C'était cette manière dont il voulait rentrer chez les gens. Il aimait cette famille, et il aimait aller se reposer chez eux. Est-ce que Jésus aime se reposer chez nous? Il était capable de dire des choses très fortes à Marthe, qui l'amenaient à dire « Oui, je crois que tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant, celui qui vient dans le monde, et tout le reste, je veux bien m'y accrocher. » Il était aussi capable de prendre en charge leurs doutes, leurs hésitations. « Mais Marthe, ne t'ai-je pas dit que tu verras la gloire de Dieu? Allons, rappelle-toi, on a déjà dit ça. » « Oui, mais c'est difficile, mais ça ne fait rien. Continue, mets-toi debout, avance. » Sommes-nous prêts à revoir nos priorités? À chaque instant, qu'est-ce qui est utile? Qu'est-ce qui est nécessaire? Où est le principal? Qu'est-ce qui nourrit ma vie? Nous marchons sur deux jambes, la plupart d'entre nous. Nous marchons sur deux jambes. Et notre vie de foi est aussi sur deux jambes. Il y a l'action, bien sûr. Et nous sommes aussi engagés à ne pas être insensibles à ce qui se passe autour de nous et aux souffrances de ce monde, qu'elles soient proches ou lointaines, selon l'engagement des uns et des autres, mais cela n'aura de vrai sens que si nous sommes nourris, enrichis, enracinés dans la parole de Dieu qui donnera vraiment une raison d'être à tous ces différents engagements. À moi de vérifier à chaque instant que mes actions, mes engagements, mon service sont véritablement nourris par mon attachement au Christ. Je termine avec ce beau texte de l'Épître aux Éphésiens. Car c'est par la grâce, en effet, que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Ce n'est pas par les œuvres, afin que personne ne se glorifie. Car nous sommes son ouvrage, mais nous avons été créés en Jésus-Christ pour des œuvres bonnes que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. On marche sur deux jambes. La première jambe, c'est de croire que tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant, celui qui vient dans le monde, de croire que nous sommes sauvés par grâce et que tous nos mérites, si tant est que nous en ayons, ne valent rien par rapport à la grandeur de Dieu et ce que vous nous donnez. Et puis, la deuxième jambe qui nous dit, eh bien, nous avons été créés pour des œuvres bonnes que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions, que nous puissions continuer à avancer sur deux jambes. C'est ce que je vous souhaite et je vous invite à la prière. Seigneur, nous te remercions pour ta parole, merci parce qu'elle nous nourrit et nous enseigne, merci parce qu'elle nous montre que à chaque personne que tu croisais sur ta route, tu avais quelque chose d'important à dire parce que tu aimes les gens, tu nous aimes. Et ce matin encore, tu veux nous dire quelque chose à chacun d'entre nous, individuellement, peut-être aussi collectivement, parce que tu te soucies de nous. Que tes paroles, ta présence puissent enrichir, enluminer notre vie et ce moment de l'avant avec ces bougies qui s'allument, nous reparle de ce miracle de la lumière. Oui, je suis la lumière du monde, ça nous a été rappelé tout à l'heure. Nous voulons croire cela et te remercier parce que nous savons que tu marches à nos côtés et que quand ce sera le moment, tu viendras chez nous, tu viendras dans notre maison et tu nous apporteras la parole dont nous avons besoin, le réconfort dont nous avons besoin. Merci Seigneur d'accompagner tous nos frères et sœurs qui ne sont pas là ce matin. Merci parce que tu fais de nous une communauté qui veut te suivre pas à pas, malgré nos faiblesses, malgré nos difficultés, mais éclairée par ton amour. Amen.